J'ai une bonne nouvelle pour toi, le crois-tu? On a entendu tout à l'heure l'occasion de témoigner par le chant d'une bonne nouvelle extraordinaire. C'est un message qu'on veut porter et véhiculer, tout particulièrement durant ce mois de décembre. Le crois-tu? Alors cette semaine, hein, notamment vendredi aussi, c'était le Black Friday. Événement commercial exceptionnel, presque planétaire, on pourrait dire. Des gros rabais sur des milliers de produits. Un événement qui est soi-disant pour marquer le coup de la plus grande période d'achat des fêtes de fin d'année. Le plus gros mois en termes de chiffre d'affaires pour ceux qui travaillent dans le commerce. Vous allez dire, pour ce genre d'événement, il y aura les pour et les contre. Cette occasion de faire une bonne affaire sur l'objet de vos rêves, une enceinte à remplacer. Je vous assure que l'effet d'acheter, de consommer à ce moment-là sera bien éphémère. Et vous donnera envie d'attendre la prochaine grosse période de solde, le prochain coup de rabais. Et le texte que je vous propose de prendre ensemble ce matin va aussi introduire une période, la période de l'Avent. Une période qui va entraîner la venue de Jésus-Christ, la naissance de notre Sauveur et Seigneur. On parle aussi d'un événement exceptionnel aujourd'hui, plein de surprises. Certes, c'est un fait bien plus localisé, plus intime, unique, qui aurait pu passer inaperçu il y a 2000 ans, si ce n'était que Dieu était derrière l'initiative. Et il va donner un signe fort qui va introduire un événement qui ne va pas marquer simplement un mois, mais qui va marquer l'histoire. Et c'est ça qu'il faut se rappeler. L'Avent, c'est aussi ça, c'est un événement qui va marquer l'histoire de l'humanité, à jamais, pour l'éternité. C'est marrant, ce texte parle aussi de confiance, comme on l'a évoqué dimanche dernier. Alors ouvrons nos Bibles. Alors, je vous encourage à prendre vos Bibles. On est dans l'évangile de Luc. Luc, chapitre 1. Alors lisons à partir du verset 5. Luc 1, à partir du verset 5. Durant le règne d'Hérode sur la Judée, il y avait un prêtre du nom de Zacharie, de la classe d'Abia. Sa femme était une descendance d'Aaron et s'appelait Élisabeth. Tous deux étaient justes devant Dieu. Il suivait d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les lois du Seigneur. Il n'avait pas d'enfant, parce qu'Élisabeth était stérile, et ils étaient l'un et l'autre d'un âge avancé. Or, pendant que Zacharie remplissait sa fonction de prêtre devant Dieu, c'était le tour de sa classe, il fut désigné par le sort, d'après la règle en vigueur pour tous les prêtres, pour rentrer dans le temple du Seigneur et y brûler le parfum. Toute la multitude du peuple était dehors en prière à l'heure de l'offrande du parfum. Alors un ange du Seigneur apparut à Zacharie et se tint debout à droite de l'autel des parfums. Zacharie fut troublé en le voyant et la peur s'empara de lui. Mais l'ange lui dit: N'aie pas peur, Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme Élisabeth te donnera un fils et tu l'appelleras Jean. Il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse, et beaucoup se réjouiront de sa naissance, car il sera grand devant le Seigneur. Il ne boira ni vin ni boisson alcoolisée, et il sera rempli de l'Esprit Saint dès le ventre de sa mère. Il ramènera beaucoup d'Israélites au Seigneur leur Dieu. Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie, pour ramener le cœur des pères vers leurs enfants et les rebelles à la sagesse des justes, afin de préparer pour le Seigneur un peuple bien disposé. Zacharie dit à l'ange: À quoi reconnaîtrai-je cela? En effet, je suis vieux et ma femme est d'un âge avancé. L'ange lui répondit: Je suis Gabriel, je me tiens devant Dieu. J'ai été envoyé pour te parler et pour t'annoncer cette bonne nouvelle. Voici, tu seras muet et tu ne pourras plus parler jusqu'au jour où cela arrivera, parce que tu n'as pas cru à mes paroles, qui s'accompliront au moment voulu. Cependant, le peuple attendait Zacharie et s'étonnait qu'il s'attarde si longtemps dans le temple. Quand il sortit, il ne pouvait pas leur parler, et ils comprirent qu'il avait eu une vision dans le temple. Il s'exprimait par des signes, et il resta muet. Lorsque ses jours de service furent terminés, il rentra chez lui. Quelque temps après, sa femme Élisabeth fut enceinte. Elle se cacha pendant 5 mois, disant: C'est l'œuvre que le Seigneur a faite quand il a porté le regard sur moi, pour enlever ce qui faisait ma honte parmi les hommes. On voit dans ce texte que Dieu surprend un couple en leur faisant enfanter le dernier prophète de l'Ancien Testament. Alors je vous propose dans un premier temps de regarder l'histoire, de parcourir l'histoire, de relever cet événement extraordinaire, d'essayer de le comprendre avant de, dans un deuxième temps, de regarder quelques applications pour nous. Alors l'histoire. Alors au début, il nous est question d'un couple qui est juste. Luc, l'auteur, nous présente un homme, Zacharie, et sa femme, Élisabeth. Lui, il exerce la fonction de sacrificateur ou prêtre. Et il a épousé une femme qui descend aussi d'une lignée de prêtres, la lignée d'Aaron. Ah, c'est pas n'importe laquelle, hein. Un plus pour Zacharie. Simplement, je vous rappelle que le devoir d'un sacrificateur, d'un prêtre, il y avait trois devoirs. Servir le Seigneur dans le temple et dans les occasions données de façon cultuelle pour le culte. Il devait enseigner la loi au peuple et il devait consulter l'Éternel. Il devait parler à l'Éternel. Le contexte dans lequel ils vivent est très difficile. Voilà plus de 400 ans que Dieu est silencieux. 400 ans. Malachie est le dernier prophète qui a parlé au nom de Dieu et 400 ans sans rien, sans aucune parole de Dieu. On sait aussi que à cette venue, à ce moment-là, c'est un contexte d'hypocrisie pour ce peuple juif. Cette nation est très loin de ce que Dieu attend d'eux. Jésus-Christ lui-même, un peu plus tard, va reprocher cette incrédulité, cette hypocrisie de ce peuple. Et si vous regardez verset 6, que nous dit Luc sur ce couple ? Tous deux étaient justes devant Dieu. Ils suivaient d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les lois du Seigneur. Ils étaient justes devant Dieu, tous deux. Et quand la Bible utilise ce terme, mes amis, c'est pour dire qu'ils avaient une foi en un Dieu qui était vivant pour eux, un Dieu véritable. Ils suivaient d'une manière irréprochable tous les commandements et les lois du Seigneur. Ils avaient une vie, quelque part, dans la sanctification, dans la sainteté. Alors ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas failli, qu'ils n'ont pas péché, mais ils ont montré que leur vie était caractérisée par l'obéissance à la parole de Dieu, à la loi de Dieu. Ils vivaient conformément aux exigences et aux morales que Dieu avait laissées. Zacharie et Élisabeth sont donc un couple, un reste parmi ce peuple fidèle, fidèle à Dieu, au milieu d'une nation païenne qui avait rejeté, qui avait mélangé cet attachement à Dieu. Donc un couple juste, mais, vous l'avez vu, verset 7, ils n'avaient pas d'enfants, parce qu'Élisabeth était stérile et ils étaient l'un et l'autre d'un âge avancé. Alors c'est vrai que la stérilité, c'est une situation déjà compliquée dans notre société, hein. Un couple sur 8 à peu près a cette difficulté-là. Ça reste une source de souffrance, mais il faut savoir que dans le contexte juif, d'autant plus, on ne pouvait pas s'empêcher de se questionner. Est-ce qu'il y a un péché, une situation quelconque dans leur vie qui empêchait de Dieu de les bénir pour une descendance? Et Luc souligne ce contraste. Il dit qu'ils étaient justes, mais il manque le « mais ». Dans le contexte juif, cette situation était clairement interprétée comme une malédiction. C'était ce qui était de pire qui pouvait arriver à une femme. Parce que, effectivement, la parole de Dieu dit que des enfants, c'est une bénédiction. Et c'est vrai. Mais l'homme tordu fait la proposition symétrique. Si c'est une bénédiction, ça veut dire que si on n'a pas, c'est une malédiction. Et on a tort. Mais inévitablement, cette situation est un fardeau pour ce couple. Et la situation est même désespérée. Ils étaient âgés, d'un âge avancé. Un couple juste, mais toute une vie sans enfant, à devoir gérer le regard peut-être interrogateur des autres autour. Une vie peut-être de piété, mais comment ils étaient vus, comment ils étaient perçus des autres. Quand on avance, on voit à partir du verset 8 qu'il est un prêtre comblé. On apprend que Zacharie a été désigné pour servir concrètement au temple. Alors c'est vrai, le texte ne rend pas compte de toute la solennité de l'événement, de ce service particulier, mais ça devait être exaltant pour lui. Un moment unique. Verset 9, il fut désigné par le sort, d'après la règle en vigueur pour les prêtres, pour entrer dans le temple du Seigneur et y brûler le parfum. C'était l'honneur le plus élevé pour un sacrificateur. Tout le monde n'avait pas le privilège d'un jour dans sa vie, dans son ministère, de pouvoir servir dans le temple à Jérusalem, en raison du nombre important de prêtres à l'époque. On considère, les spécialistes disent qu'ils considèrent qu'à peu près, il y avait une fois dans votre vie, ça arrivait que vous avez ce privilège de faire ce service-là. Le couronnement d'une fonction. Ce service de brûler des parfums sur un autel dédié. Un service qui se faisait matin et soir, pendant une semaine. On entretenait le feu sur l'autel des parfums. Je crois que j'ai un petit plan. Alors c'est le temple de Salomon, mais c'est pas grave. Donc vous avez... Bon, le temple, hein, vous le voyez, il est coupé là, mais c'est pas grave. Là, il y a la partie sainte où il y a deux fois par jour, il y a un homme qui peut rentrer, un sacrificateur. La partie très sainte à l'arrière qui est séparée par un rideau normalement ici. Et puis l'autel des parfums, il est là. Donc, l'autel des parfums était juste devant le rideau. La partie sainte où était normalement manifestée, représentée la présence de Dieu. C'est un service où il fallait, comme je le disais, brûler des parfums. Un rituel très fort. On prenait du feu dehors, hein, de l'autel où on faisait les sacrifices tous les jours. On prenait un peu des braises, on l'emmenait dans un chaudron et on le ramenait ici, on le déposait et on versait un parfum spécial, confectionné spécialement juste pour cet événement-là, pour que les bonnes odeurs, le parfum répandu sur ces braises, répandait ce temple. Ce parfum symbolisait, était en relation avec ce qui était fait dehors, l'adoration, les prières du peuple qui était adressé vers Dieu, qui lui était agréable. Et dehors, on a la foule, hein, bien évidemment, qui attend. On l'a au verset 10. Toute la multitude du peuple était dehors en prière, attendait que ce prêtre ressorte de faire ce service-là. C'est un moment particulier dans ce culte des Juifs. Et là, dans cette situation, c'est le troisième point, surprise. Alors un ange du Seigneur apparut à Zacharie et se tint debout à droite de l'autel des parfums. Surprise. Alors que tout baigne, ça bascule. À ce moment-là, Dieu est en train d'intervenir dans l'histoire de ce peuple. Avec simplicité quelque part, sans fanfare. Il aurait pu apparaître quelques mètres dehors, non ? Où il y avait la foule qui attendait. Il s'adresse juste à un homme. Debout à droite de l'autel des parfums. 400 ans de silence. Et voilà que Dieu, voilà qu'un ange, et littéralement ça veut dire un messager, est présent. Ça veut dire que ce texte est en train de nous indiquer qu'il y a une rupture du silence de Dieu. Dieu brise le silence, un rayon de lumière dans les ténèbres. C'est ça l'avant, la venue de Jésus-Christ. Et un ange se place à côté de Zacharie. Alors la réaction de Zacharie, elle est normale, hein. Il fut troublé en le voyant et la peur s'empara de lui. Troublé, on pourrait le traduire aussi, secoué, saisi, agité. Zacharie est conscient qu'il y a quelque chose qui se passe. Plusieurs siècles, je vous l'ai dit, qu'il n'y a pas eu de prophète, où Dieu n'a pas parlé, où Dieu n'a pas inspiré des hommes pour proclamer une vérité. Plusieurs siècles où il n'y a pas eu ni d'ange ni de prophète. Vous allez vous dire, bon, la venue des anges, ça paraît, voilà, on se dit quand on lit la Bible, il y a plusieurs occasions, mais 10 fois dans l'Ancien Testament, il y a eu un ange qui s'est présenté à des hommes. 10 fois, c'est rien. Hein. Dans le Nouveau Testament, sur une période d'un siècle, 16 fois, et 6 fois pour annoncer la venue de Jésus, pour annoncer cet épisode. Zacharie, par exemple, Marie, les bergers, etc. C'est peu, hein. Et 6 fois pour Jésus-Christ. Il y a un événement qui est en train de se passer. C'est significatif. C'est représentatif. Il y a quelque chose qui est en train de se passer dans l'histoire de l'humanité. Parce que l'apparition des anges ou d'une apparition humaine de Dieu vis-à-vis des hommes, c'est toujours à des moments clés, charnières de l'histoire de l'humanité. À des hommes particuliers. Ésaïe, Moïse, etc., etc. Ici, Zacharie. Un sacrificateur banal. Enfin, on pourrait dire banal parmi les sacrificateurs de l'époque, mais un homme juste. Ce que l'ange va lui dire va le rassurer. C'est pas un message de jugement qu'il est en train de dire. Zacharie n'a rien à redouter. Relisez verset 13, l'ange lui dit « N'aie pas peur, Zacharie, car ta prière a été exaucée. » Ce messager a un message de bénédiction. Dieu répond favorablement « Ta prière a été entendue. » Alors on pourrait se poser la question, mais c'est c'était quelle prière? Parce qu'après, il poursuit. Ta femme Élisabeth te donnera un fils et tu l'appelleras Jean. Est-ce que c'est sa demande d'avoir un fils? On peut se poser la question. Ils étaient âgés. Est-ce qu'ils avaient encore foi que Dieu leur accorde un fils? Est-ce qu'on, le fait qu'on sait que c'était des hommes justes, est-ce que c'était le fait de dire « Dieu, viens, interviens, ça fait 400 ans qu'on ne t'entend pas, parle-nous » Est-ce que c'était ça sa prière? Tu avais promis un Messie. Rappelez-vous, on a parcouru il n'y a pas longtemps Néhémie. Néhémie, il a intercédé en s'appuyant sur les promesses de Dieu. « Dieu, tu avais dit ça, alors interviens. » Est-ce que Zacharie était un homme comme ça, qui priait la parole de Dieu et qui disait « Dieu, interviens, tu vois ce peuple qui s'égare, tu vois ce peuple qui est loin de toi ?» On ne le sait pas. Mais la réponse que nous donne l'ange, ce messager nous montre que les deux sont juxtaposés. Dieu va à la fois répondre à peut-être une prière qui était celle de ce couple des années, et à la fois il va répondre à cette attente d'un Messie, d'un Sauveur. Voilà le moment venu de l'histoire. La requête du couple est accordée. Avait-il perdu espoir d'une réponse de Dieu? Quel âge avait-il? 60 ans? 60 ans! Allez, ils se sont mariés à 20 ans. 40 ans où ils ont prié peut-être pour ça? Peut-être que depuis qu'ils ont la capacité de raisonner, ils prient pendant, depuis je sais pas combien d'années, 50 ans pour un retour de Dieu, pour la venue d'un Messie. D'autant plus qu'à l'époque, ils étaient assujettis aux Romains. Et là, quand tout semble loin, voilà Dieu qui intervient. Ce sera un fils pour Élisabeth. Il s'appellera Jean. Rien que le nom Jean signifie « l'Éternel fait grâce », »,« l'Éternel fait cadeau ». Quel nom approprié pour l'événement? Il sera le précurseur de Jésus-Christ. Et bien évidemment, verset 15, ça peut être une joie pour ce couple, pour cette famille, cette venue. Et pour beaucoup. Et c'est pas tout, l'ange n'annonce pas simplement la naissance, il annonce tout ce que cet homme fera, et c'est pas n'importe qui. Relisons simplement les versets 15 à 17. Il sera grand devant le Seigneur. Il ne boira ni vin ni boisson alcoolisée. Il sera rempli de l'Esprit Saint dès le ventre de sa mère. Il ramènera beaucoup d'Israélites au Seigneur leur Dieu. Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie pour ramener le cœur des pères vers leurs enfants et les rebelles à la sagesse des justes, afin de préparer pour le Seigneur un peuple bien disposé. Waouh ! Quel homme est annoncé ! On pourrait passer la matinée, je pense, à étudier ces trois versets. On va pas le faire ce matin, mais brièvement, il est grand devant le Seigneur. Malgré ses origines modestes, cet homme est grand. La suite du récit va nous dire que c'est Jean, hein, Jean le Baptiste, il va être habillé très sobrement, vêtements de poil. Il va habiter dans le désert, il va manger des sauterelles et du miel sauvage. Est-ce que c'est un homme grand, ça? Il avait un message qui était percutant, un peu radical, qui faisait grincer des dents. Il ne caressait pas dans le sens du poil, il était incisif. C'est ce que nous dit d'ailleurs le texte. Hein. On voit que c'est un homme qui n'a pas retenu ses disciples. Lorsque ses disciples ont dit on a vu Jésus-Christ, on va le suivre. Il se retrouve seul. Même les contemporains ne savaient pas quoi dire de cet homme. Je voudrais juste lire avec vous Jean, ce qui nous est dit dans Jean. Pas besoin de le prendre, mais je vais lire quelques versets de ce que nous est dit à l'époque, les contemporains de Jean, ce Jean le Baptiste. Verset 19, voici le témoignage de Jean lorsque les Juifs envoyèrent de Jérusalem des prêtres et des Lévites pour lui demander « Toi, t'es qui ?» Il déclara et sans restriction affirma « Moi, je ne suis pas le Messie. » Mais ils lui demandèrent « Mais qui es-tu donc ? Es-tu Élie ?» Et il dit « Je ne le suis pas. Es-tu le prophète ?» Et il répondit « Non. » Mais ils lui dirent alors « Qui es-tu ? Nous devons donner une réponse à ceux qui nous ont envoyés. Que dis-tu de toi-même ? Moi, dit-il, je suis la voix qui crie, de celui qui crie dans le désert, rendez le chemin, le Seigneur droit, etc. etc. » On ne sait pas qui est cet homme. Et Jésus a dit plus tard de cet homme, il n'y a pas eu de plus grand que Jean-Baptiste. Moïse, il est exceptionnel, non ? David ? Non, Jean-Baptiste, il n'y a pas eu de plus grand. Pourquoi ? Parce qu'il préfigure la venue de Jésus-Christ. Plus grand qu'Ésaïe, plus grand que Néhémie, grand devant Dieu. Il a l'approbation de Dieu. Dieu a choisi Jean. Et l'ange donne deux marques. Voilà deux marques, une marque extérieure et une marque intérieure. Il va démontrer par sa vie un mode de vie qui est décalé par rapport à la société, qui va rejeter les plaisirs du monde. Dans son habillement, je l'ai déjà évoqué, hein, mais par aussi sa capacité à gérer la boisson. Mais il a aussi une marque intérieure. Et c'est surprenant, hein? Rempli du Saint-Esprit dès sa vie utérine. Sa vie était connue de Dieu. Sa vie entière, ça veut dire que sa vie entière serait dévouée, déroulée sous l'influence, la souveraineté et la puissance du Saint-Esprit de Dieu. C'est une vie qui sera dépendante de Dieu. La main de Dieu est sur cet enfant. Un prophète. C'est un prophète que cet ange est en train d'annoncer à Zacharie. Jérémie, dans l'annonce à Jérémie, je vous lis juste, hein, Jérémie 1, 4 à 7. Pareil, on s'adresse à Jérémie pour sa vocation de prophète. Bien plus tard, il était déjà adulte. La parole de l'Éternel m'a été adressée. Avant de te former dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu naissais, je t'avais consacré. Je t'avais désigné prophète pour les nations. Ça, il est dit de Jérémie. Il est adulte. Là, le messager à Zacharie dit, le fils, ton fils, il est consacré, il est mis à part. C'est un homme pour moi. C'est le choix de Dieu. Quelle surprise. On voit que Jean sera dépositaire d'un message, hein, il parlera comme Élie. Il aura un message fort à délivrer. Il va proclamer des vérités de Dieu sans crainte. Et sa prédication, on le voit, aura un impact. Elle va préparer les cœurs. Verset 16, il nous est dit, il ramènera beaucoup d'Israélites. Le mot ramener ici, c'est le même mot que nous, on parle quand on parle de conversion. Quand on parle de retour à Dieu. Le message que Jean va apporter va détourner les enfants d'Israélites de leur rébellion, de leur désobéissance, de leur révolte, de leur péché, de leur propre justice pour se tourner vers Dieu. Il ramènera des conversions de famille. Il y aura des impacts sur les générations. Le clin d'œil du messager qui cite Malachie, les dernières paroles de Malachie, le dernier prophète ramené au premier prophète, enfin au dernier prophète qui va introduire Jésus-Christ. Chaque fois qu'on entendait Jean-Baptiste, on entendait une accusation sur votre péché, afin de préparer pour le Seigneur un peuple bien disposé, un peuple prêt pour le Seigneur. Jean-Baptiste va niveler tout le monde, chacun d'entre nous, au rang de pécheur, d'éloigné de Dieu, afin que la grâce de Dieu puisse apparaître dans toute sa splendeur. Je voudrais juste lire avec vous Matthieu 3, qui évoque cet aspect-là. Jean portait un vêtement de poil et une ceinture de cuir autour de la taille, se nourrissait de sauterelles. Les habitants de Jérusalem, de toute la Judée, de toute la région du Jourdain, se rendaient vers lui. Ils reconnaissaient publiquement leurs péchés. Ils se faisaient baptiser par lui dans les eaux du Jourdain. Cependant, quand il vit beaucoup de pharisiens et de sadducéens venir se faire baptiser, il leur dit « Race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir ? Produisez donc du fruit qui confirme votre changement d'attitude. » Jean-Baptiste est en train de dénoncer cette nation impie, rebelle à Dieu. Il prépare le chemin du Messie. Extraordinaire, hein ? Trouvez pas ? C'est ça l'avant. C'est l'avant la naissance. Mais, on découvre un prêtre, un sacrificateur qui est incrédule. Zacharie dit à l'ange, « À quoi reconnaîtrais-je cela ? En effet, je suis vieux et ma femme d'un âge avancé. » Au lieu de la reconnaissance, Zacharie est sceptique. Il doute, il manque de confiance. Malgré sa foi, il refuse de croire. Dimanche dernier, on a vu un homme qui n'avait pas beaucoup de foi. Jésus lui a dit une chose et il a cru. Zacharie doute de la véracité des paroles de Dieu, des promesses qu'il vient d'entendre. Moi, je trouve que c'est encourageant de voir un homme de son calibre, de sa connaissance, tomber dans le doute, dans l'incrédulité. C'est pas tant sa question qui est gênante, parce que d'autres l'ont posé, hein. Quel sera le signe ? À quoi reconnaîtrais-je cela ? D'autres l'ont posé, d'autres hommes avant lui, notamment Abraham, reconnu comme un homme de foi. Mais c'est la réalité de la vie, mes amis. Il remet en cause la sincérité du messager devant lui. Je sais pas quelle aurait été ma réaction. Eh oh, je suis vieux, hein. C'est ce que Zacharie dit. On est d'un âge avancé. Et c'est la deuxième fois que le texte souligne. Et la réponse de l'ange, il dit, je suis pas un ange ordinaire. Je suis Gabriel. Je suis celui qui se tient devant Dieu. Je suis le messager principal de Dieu. Celui qui est envoyé pour communiquer des éléments importants concernant l'histoire du salut, de la rédemption. Gabriel, on le voit deux fois dans la Bible. Première fois, chez Daniel, le prophète Daniel, quand il annonce des événements à venir. Et la deuxième fois, c'est ici. Et la troisième fois, ce sera avec Marie. C'est pas n'importe qui. Et cet ange est envoyé pour lui parler et lui annoncer cette bonne nouvelle. Voilà ce qu'il dit, la bonne nouvelle de la part de Dieu. Et la bonne nouvelle ici, c'est le mot qu'on dit évangile, la même racine. C'est un mot fort. C'est un mot qui est utilisé pour partager une grande nouvelle. Par exemple, on pouvait employer ce mot lorsqu'il y avait un nouveau roi qui était mis sur le trône. Ça veut dire qu'il y a une nouvelle ère qui arrive. On pourrait dire c'est une bonne nouvelle qu'il y a un nouveau président d'un coup après une période d'élection. Il y a un nouveau président. Ça annonce une nouvelle période pour le peuple, une nouvelle ère. Zacharie, voilà ce que dit ce messager. Ce qui est en train de se passer, ce que je suis en train de te dire, c'est une nouvelle période de l'histoire qui est en train de s'ouvrir pour le peuple. Et du coup, l'ange va lui annoncer un châtiment pour son incrédulité. Tu seras muet. Oups. Jusqu'à après 8 jours après la naissance, quand on donnera un nom à cet enfant. Plus de 9 mois sans être capable de parler, sans être capable de dire ce qu'il vient de vivre. Une expérience surnaturelle, une nouvelle extraordinaire. Un fils qui est annoncé comme le précurseur du Messie, si je comprends bien. Je suis incapable de le partager avec des mots. Incapable de l'annoncer à ma femme. Son engagement de prêtre en prend aussi un coup. Hein. Je vous disais, c'est pour ça que c'est important. Un prêtre, c'était quoi? Il enseignait le peuple pendant plusieurs mois. Plus de fonction. Impossible d'accomplir son devoir sacerdotal. Incapable de parler à Dieu. De porter les prières des autres. Zacharie porte un jugement en raison de son manque de foi. Parce qu'il n'a pas cru aux paroles de Dieu, il a perdu l'usage de la parole. Ce qui aurait pu être une bonne nouvelle devient une petite épine, enfin, dans son pied. Mais la souveraineté de Dieu demeure, la parole de Dieu s'accomplit néanmoins. On le voit dans le verset, la fin du verset 20. Cela s'accomplira au moment voulu. Ça n'arrête pas les plans de Dieu, au temps prévu. Le peuple dehors, vous l'avez vu, hein, se questionne, ça commence à durer. C'est pas normal de ce qui se passe. A-t-il été frappé d'un jugement divin? Ce qui m'a aussi interpellé, c'est que, je disais, sa femme, elle est descendante d'Aaron. Et on a des épisodes de fils d'Aaron qui ont fait la même chose. Enfin, qui étaient aussi dans cette partie sainte et qui ont versé du parfum et qui ont été frappés de mort parce que ils ont été marqués par la désobéissance. Ils ont manqué de foi. Ils ont manqué d'obéissance à Dieu. Ils ont été frappés de mort. Là, Dieu, il y a les mollo, hein. Et je pense que dans la tête de Zacharie, probablement dans la tête aussi de son épouse, ça a dû cogiter. Parce que ça s'entendait, hein. S'ils étaient justes et pieux, c'est qu'ils avaient à cœur d'écouter ce que Dieu leur avait dit et ils se rappelaient que leur ancêtre avait mal agi dans leur service de responsable, de prêtre. Dieu n'a pas pris la vie de Zacharie. Quelque chose de particulier s'est passé. Zacharie n'a plus de voix. Qu'est-ce qu'il aurait dit le cas contraire? Je me suis posé la question. Est-ce que ça n'arrange pas d'un coup qu'il n'a pas la voix? Il sort, il ne peut plus parler. Parce qu'il sort, il dit « j'ai vu un ange ». Je disais quoi? Ça arrivait 10 fois. Toi, Zacharie? Je sais pas, hein. Est-ce que vous représentez ça, cette situation? De dire, il y a la présence de Dieu qui s'est manifestée. Il m'a dit des choses extraordinaires. Je vais avoir un fils. Vous imaginez sortir du temple et dire ça? Je sais pas si on l'aurait cru non plus. Le texte se termine un peu, moi je trouve sur ma fin. Je suis un peu sur ma fin. On sait pas comment la nouvelle est transmise à sa femme. On sait pas comment Zacharie se débrouille pour évoquer les raisons, mais Luc relate et termine avec une belle simplicité l'accomplissement de ce qui vient d'être annoncé. Et c'est les derniers versets qu'on a lus et on voit une femme qui est comblée. Versets 23 à 25. Lorsque ses jours de service furent terminés, il rentra chez lui. Quelque temps après, sa femme, Élisabeth, fut enceinte. Elle se cacha pendant 5 mois, disant « C'est l'œuvre que le Seigneur a faite quand il a porté le regard sur moi pour enlever ce qui faisait ma honte. » Le miracle annoncé a lieu. Élisabeth tombe enceinte. On peut imaginer sa joie. Et elle s'est cachée, je peux la comprendre, pour attendre que ça se voie. Cela devient évident et elle l'annonce. Je me suis dit, imaginez-vous une dame de 60 ans vous annonce qu'elle est enceinte. Je pense qu'on rigolerait un peu, non? Même si aujourd'hui, avec l'évolution scientifique, avec les capacités qu'on a de manipuler, de telles situations qui étaient réservées aux miraculeux sont possibles. Mais cette portion du texte termine par la louange d'Élisabeth envers Dieu. Elle est profondément reconnaissante de la honte qui lui a été enlevée. Zacharie et Élisabeth, des croyants imparfaits, mais sincères. Ils étaient humbles, obéissants, consacrés, justes, au service du Seigneur. Mais ils étaient aussi sceptiques, craintifs, remplis de doutes. Ça, c'est le début de l'avant, le début de l'événement extraordinaire de la venue du Messie. Dieu est le Dieu des débuts modestes, avec des personnes modestes, humbles. Zacharie, on l'entendra encore une fois, un peu plus loin, et puis après, la parole de Dieu ne nous en parle plus. Mais ils ont été utilisés malgré leur faiblesse, malgré leur manque de foi, leur manque de confiance. Ça, c'est l'histoire du grand salut qui commence, qui vient, qui arrive. Et je trouve que c'est une occasion de nous réjouir. C'est un texte qu'on connaît. Mais combien précieux de pouvoir nous le rappeler dans cette période de l'Avent. L'histoire du salut en Jésus-Christ commence par l'histoire, un miracle d'un couple âgé qui a un enfant. Un enfant qui va avoir un ministère particulier, un événement planétaire. Et cette œuvre de Jésus commence par une réponse à un besoin humain. C'est une réponse aux prières aussi d'Élisabeth et de Zacharie. C'est pas quelque chose d'extraordinaire. Jésus l'aurait pu, enfin, je sais pas, même la venue du prophète avant Jésus, il aurait pu venir de mille et une autres façons. Aujourd'hui, avec l'imagination des super-héros, on n'aurait aucun mal à imaginer que le Dieu de l'univers, le Dieu qui nous a créés chacun individuellement, vienne différemment que de cette façon-là. Et pourtant, c'est l'événement qui va changer à jamais la face du monde. Alors prenons quelques temps pour des applications, pour nous ce matin. Premier point, Dieu accomplit ses promesses. Il les a accomplies par le passé et il accomplira ses promesses. Si on se place dans la peau de Zacharie, est-ce que c'est la vie est à un moment un point mort? On se dit pas de grande joie, pas de grande tristesse. C'est morose aujourd'hui, je sais pas comment vous situez. C'est la routine. Hein, la vie engendre pas spécifiquement des choses de quoi nous stimuler, nous encourager, nous exciter. Est-ce que je suis tenté de vivre pour moi, de vivre comme si aujourd'hui était la seule chose qui compte? Peut-être que c'était l'état d'esprit de Zacharie, on ne sait pas. Jusqu'à ce que Dieu fait brusquement irruption dans sa vie. La vie, une vie de promesse pour toi. Jésus-Christ est venu brusquement dans nos vies. Ça a chamboulé à jamais. Aujourd'hui, on peut prendre par routine la route avec les soucis du jour, la pression du quotidien, métro, boulot, hein, dodo. Et peut-être brusquement le retour de Christ, où Dieu nous rassemblera. Cela va briser notre routine. Ce texte est en train de nous montrer que Dieu accomplit ses promesses. On l'avait vu déjà avec Néhémie. Dieu est à la manœuvre, le croyons-nous. Il est celui qui guide les événements. Cette période de l'Avent est une occasion encore pour nous de nous réjouir de la naissance de Jésus. C'est se réjouir de l'action de Dieu. C'est se réjouir que la maîtrise de la souveraineté de Dieu, de l'accomplissement incroyable de ses promesses et encore de tellement d'autres à venir. Ici, c'est Jean-Baptiste, c'est l'articulation entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. C'est extraordinaire. Dieu accomplit ses promesses. Un deuxième point, mais qui rejoint, Dieu surprend parfois ses enfants. Est-ce qu'on le croit? Qu'il est capable de nous surprendre? Moi, je suis convaincu que la vie avec le Seigneur est une sacrée belle aventure. Je ne sais pas pour vous. En tout cas, elle doit être vécue comme telle. Dieu nous surprendra. Dieu veut nous surprendre dans les réponses à nos prières. Est-ce qu'on le croit? À nos demandes? Néhémie, réfléchissons juste à Néhémie. Néhémie a été... sa vie a été bousculée parce que Dieu est intervenu. Sa prière était alimentée des promesses de Dieu. On peut, il y a des promesses extraordinaires. Alimentons nos prières de ces promesses de Dieu et nous verrons nos vies extraordinaires, les interventions de Dieu. Est-ce qu'on les voit? La vie avec le Seigneur vaut vraiment le coup. Est-ce qu'on laisse à Dieu la manière de chambouler nos vies? Le moment de chambouler nos vies. Parfois, on voudrait que ce soit tout de suite. Zacharie a dû attendre. On a partagé notre souci de local, les salles plus compatibles avec les besoins de nos enfants. Mais Dieu sait ce qu'on a besoin, vraiment besoin. Est-ce qu'on est prêt à être surpris par la réponse que Dieu veut apporter à cette situation-là? Moi, je veux le croire. On pourrait s'interroger, comment Dieu peut encore vous surprendre? Est-ce que vous êtes blasé dans votre vie avec le Seigneur? Peut-être que Dieu veut vous utiliser pour encourager quelqu'un, pour partager l'évangile, pour partager la bonne nouvelle. C'est une telle joie de pouvoir partager pendant cette période de l'Avent quelque chose d'important pour nous. Peut-être que Dieu va changer l'orientation de votre vie. Quand je regarde mon parcours de ces dernières années, je me dis, fou, qu'est-ce que Dieu a fait? Gloire à Dieu. Est-ce qu'on est prêt à être renouvelé par lui? On est peut-être fatigué, lassé de toutes ces situations qui sont redondantes, ces blessures qui reviennent. Est-ce qu'on est prêt à se laisser visiter par Dieu pour être renouvelé par lui? Dieu surprend. La parole de Dieu le dit. Ça fait un troisième point. L'incrédulité face aux paroles de Dieu, c'est grave. Il y a quantité de promesses, je l'ai dit, il y a quantité d'avertissements de Dieu. Qu'en faisons-nous? Il est facile de douter, il est facile de rejeter. Dieu a-t-il réellement dit? Ça commence dans Genèse. Dieu a-t-il vraiment dit? Est-ce qu'on se fie davantage à quoi? À la parole de Dieu? À nos expériences? Aux exemples qu'on a autour de nous? Ou à la parole de Dieu? Vraie, véritable, qui ne bouge pas. Les promesses de Dieu sont-elles impossibles à nos yeux? On pourrait se dire, Zacharie, il avait raison. C'est impossible. Aujourd'hui, on aurait dit c'est possible. Avec la technologie, mais Zacharie à l'époque, il dit c'est impossible, on est vieux. Quand la parole de Dieu nous encourage à abandonner, à délaisser de mauvaises habitudes, à en revêtir de nouvelles, qu'en faisons-nous? La parole de Dieu, il y a beaucoup d'exemples où il y a l'incrédulité, où le doute sur les paroles de Dieu ont eu des graves conséquences. Là, il a perdu la voix. Bon. Pour ceux qui aiment chanter, 9 mois sans chanter. Mais il y a eu d'autres où ils n'ont pas cru, où ça a été beaucoup plus grave pour d'autres autour d'eux. Souvenons-nous de la parole de Dieu qui s'accomplit. Il s'agit de comprendre ce que le Seigneur attend de nous, de vivre selon les promesses de Dieu. Voilà tout l'enjeu. Écoutons. Écoutons. L'impossible est une immense opportunité pour que Dieu se glorifie. Imaginez-vous le renversement de la situation de ce couple. Ils ont une vie menée, marquée par la justice de Dieu. Ils étaient justes. Alors même que les apparences de la stérilité sous-entendaient peut-être le contraire aux yeux des autres. Quelle épreuve, mes amis. Et c'est vrai, les épreuves, les obstacles sont l'occasion de nous attendre à Dieu, de dépendre de Dieu, de ce que Dieu nous fortifie dans ces situations-là. Et même si la réponse de Dieu attend, tarde, ou n'est pas celle qu'on attendait. L'impossible, c'est l'évangile, la bonne nouvelle. Mes amis, il n'y a pas la place en tant que chrétien pour la fatalité. Il n'y a pas de place pour l'incrédulité, que les choses vont rester telles qu'elles sont. La parole de Dieu, elle rappelle le rétablissement complet. La parole de Dieu parle de la place de la grâce, la place du pardon, de la réconciliation, de la miséricorde, de celui qui relève, de celui qui construit, de celui qui corrige. C'est pas parce qu'on a quelqu'un, on va dire, d'alcoolique dans la famille, qui sera toujours alcoolique. La promesse de Dieu est telle qu'il peut renverser, corriger, réparer, ce qui est impossible aux yeux des hommes. Le croyons-nous, mes amis? Le croyons-nous? Dieu relève, Dieu soutient, Dieu fortifie, Dieu affermit. Dieu n'est pas limité par nos visions étroites, ni par les moyens humains. Alors accordons-lui la confiance. Dépendons de lui. Et Dieu attendait cette heure-ci pour encourager son peuple, pour un événement extraordinaire. Et c'est vrai qu'on voit aussi qu'il y a la repentance à sa place, et c'est le message de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste prêchera un message, repentez-vous, vous êtes loin de Dieu. Mais on le voit déjà dans ces quelques versets qu'il y a la place de la restauration. Des familles seront restaurées. L'œuvre de Dieu, l'œuvre de grâce prend source lorsqu'on se soigne loin de Dieu. Zacharie a eu un manqué de foi, et je pense qu'après il s'est dit, waouh, quelle grâce le Seigneur m'a fait. Et on le voit dans le cantique qu'il écrira tout par la suite. Nous sommes appelés, comme Jean-Baptiste, à proclamer ce message de repentance, mais ce message aussi de salut, de bonne nouvelle. Et mes amis, soyons encouragés ce mois à partager cela. Et je terminerai, Dieu est plein de grâce. Dieu a un plan qui se réalise de façon extraordinaire, minutieuse. On voit la grâce dans ce déroulement, dans son intervention, dans son incarnation. Zacharie demandait un signe, il en a eu un. Il a perdu la voix. Et en même temps, ce jugement était temporaire. Alors oui, Jean a annoncé, a préparé la venue de Jésus. Dieu a préparé la venue de Jean. Il a un rôle dans le plan de Dieu. Et il le fait par un signe fort. C'est une naissance inattendue. Alors voilà l'interpellation ce matin. C'est une bonne nouvelle pour nous. C'est une bonne nouvelle. La venue du Messie. Extraordinaire. Alors réjouissons-nous ce mois-ci particulièrement. Le croyons-nous? Le croyons-nous?